tu vu le lockout. On est rendu au compte de 10, y'a pas de bois encore. Passe le mic que j'annonce le main event. Écoute le live juste avant la fin de semaine. C'est le Knockout Friday, Knockout Friday. Une autre soirée, Boxing Town. Knockout Friday, Knockout Friday. Une autre soirée avec Boxing Town. C'est vendredi, on prend un coup, ça parle de boxe dans le coin. Qu'il soit bleu ou rouge, c'est pour la boxe technique. Ou bien les gars de Goom, si tu gardes pas tes mains, oh, tu risques de perdre le zoom. Ça parle des Gaumont, jusqu'à Lucas Klitschko, jusqu'à Charlot, des Clavel, jusqu'à Canelo. Get on art, le steak de Buckingham. La légende, le buzz qui m'écoute. As-tu vu le knockout? As-tu vu le knockout? On est rendu au compte de 10, y'a pas de bois encore. Passe le mic que j'annonce le main event. Écoute le live juste avant la fin de semaine. C'est le Knockout Friday, Knockout Friday. Une autre soirée, Boxing Town. Knockout Friday, Knockout Friday. Une autre soirée avec Boxing Town.
En direct d'une cuisine rosemontoise de Rosemont, c'est ton podcast préféré. Laurent s'écoute parler. Premièrement, hier, je suis mis à regarder des statistiques sur le prix des loyers. Après ça, j'ai regardé mon salaire mensuel. Puis je vais vous dire. Aussi à vous autres à la maison. Je ne sais pas comment vous arranger financièrement, mais on est peut-être mieux de commencer à s'habituer à manger à des toasts à moutarde. Okay? Ça, c'était mon premier point pour cette semaine. Aussi, dans la toute nouvelle chronique éphéméride, c'était l'anniversaire cette semaine, le 1er février, de Martine Vallière-Bisson. Martine est Verseau, qui est aussi le meilleur signe astrologique selon une étude. Cette semaine, le 10 février, ce sera, tenez-vous bien, mon anniversaire. Je suis né en 1982, c'est la même année où Gilles Villeneuve s'est tué en char, que Claude Ryan a démissionné comme chef du Parti libéral du Québec. C'est aussi, si ma mémoire est bonne, l'année où, je me rappelle, moi, quelques jours avant ma naissance, ben, je suivais ça. La journée avant ma naissance, René Lévesque avait gagné un référendum interne pour rester, pour renverser certaines résolutions du dernier congrès. Ça avait fait beaucoup parler. Quelques jours après ma naissance, Claude Charron avait volé dans un Eaton. Imaginez, il était leader parlementaire. Il a volé dans un Eaton. Claude Charron, son anxiété était au maximum. Il voulait quitter la politique, mais il ne savait pas comment, tellement qu'il était haut qu'il était haut en politique. Il était, était ministre, était leader parlementaire. Il a craqué. Il a volé dans un étude en faisant exprès pour se faire prendre, pour pouvoir passer à autre chose. Autre chose qui a été le match de la vie qui a animé longtemps à TVA. On dirait que je vous fais... On dirait que je suis devenu un chroniqueur culturel. J'adore ça à date. On va changer l'île Notre-Dame pour la piste de l'île Notre-Dame pour le circuit Gilles Villeneuve. Jacques Parizeau va augmenter la taxe de vente de 8 à 9%. Qu'est-ce qui va arriver d'autre? J'y vais vraiment au hasard. Hein? Je ne suis pas devant Wikipédia. C'est le début de la télésérie Peau de banane avec Yves Corbeil, Louise Deschâtelet et Marie-Soleil Touga. Bon, bref, je vais avoir 41 ans cette année. Et étrangement, quand j'avais 21 ans, je pensais qu'à 30 ans, on était un vieillard. Quand j'avais 30 ans, je pensais qu'à 40, on était un vieillard. Et maintenant que j'aligne 41 ans, j'ai l'impression qu'on devient vieillard à 60. Je pense que c'est un peu ça la vie. L'âge qu'on a, la jeunesse, c'est plutôt relatif à un état d'esprit, à comment on se sent dans notre tête. Quand vous aurez fini d'écouter mon podcast, je vous conseille, ça sort à 10h ce soir, Pas de gants blancs avec Paul Dubé et Jesper Foisy, un nouveau podcast de boxe. C'est des jeunes qui se lancent dans le podcasting. On leur souhaite la meilleure des chances. Il y a aussi Le Dernier Round, un autre podcast de boxe. Ce que vous faites, c'est que vous écoutez le mien au complet et après ça, vous pouvez écouter eux en deuxième et troisième choix. Moi, Laurence Écoute Parler va demeurer le podcast avec moi tout seul et je vais faire des entrevues, je vais faire des articles, mais ça va être du bonus. C'est, mettons, au lieu de, tu sais, je sais pas, parler à Camille et Stéphane puis l'incorporer aujourd'hui, je vais y parler, je vais faire un beau 35 minutes puis je vais vous le donner sur ma chaîne YouTube puis sur Boxing Town Québec. C'est que j'aurai pas, puis ça c'est personnel à tous et chacun, j'aurai pas la même approche que les autres podcasts qui sont vraiment, ils vont sortir un épisode puis c'est voici notre rencontre avec Yvon Michel. Non, non, moi, vous continuez à me parler, là, parce que moi, j'ai des affaires à vous dire. Puis après ça, parallèlement, je vais vous faire des entrevues. Mais c'est chacun sa méthode, mais j'ai hâte de voir parce que Paul Dubé n'a pas la langue dans sa poche. Quand tu appelles ton podcast Pas de gants blancs, c'est un peu pour ça. Et ça risque d'être dans le assez croustillant. Et moi, dans la vie, j'ai pas le câble sur ma TV couleur, mais j'écoute des podcasts sans arrêt. Fait que si tu me donnes plus de podcasts de boxe, je vais en écouter tout le temps. Je vous dirais que Paul Dubé, c'est un peu le Richard Martineau de la boxe. Donc, pas de gants blancs, ça sort ce soir. Si vous avez juste le temps pour écouter un podcast, écoutez le mien. Mais si vous avez le temps pour un deuxième, écoutez Paul Dubé.
Maintenant, c'est la chronique boxe québécoise.
Je ne veux pas vous faire pleurer aujourd'hui, mais Yves Ulysse a subi la défaite contre Gabriel Golaz Valenzuela. Puis j'ai beaucoup de choses à dire, OK? Là, premièrement, pour vous donner une idée, moi, j'écrivais à des amis proches, des gamblers, pas au sens, des gens qui aiment gager quelques sous, là, pas des gens qui ont un problème de gambling, des gens que je sais, pour vous donner une idée, qui ont plus peur de la fin du monde que de la fin du mois. Okay? Ils sont capables de gager un petit montant sur le côté puis gagner assez pour se payer un voyage. T'sais. Fait que là, j'écris à mon bon ami, je vais le nommer, là, mais je ne nommerai pas au cas où qu'il passe pour un gambler, mais pour vous donner une idée, il est un quart italien. Donc, je lui écris, écoute, Gabriel Golaz Valenzuela à 2,25 fois la mise, c'est peut-être le plus beau cadeau que le pari sportif peut t'offrir en 2023, OK? Ulysse, je voulais vous découper l'extrait, mais à un moment donné, j'ai peur de me faire poursuivre en prenant les extraits des autres émissions. À un moment donné, TVA Sport m'a envoyé une lettre d'avocat chez nous, puis moi, je vais vous le dire, pas le goût de perdre mes REER. Mais en gros, j'ai le droit d'imiter ce qui est arrivé. Puis, Jean-Charles Lajoie, il pose la question à Yves Ulysse. Puis, Yves Ulysse, il lui dit clairement, c'est mon dernier marathon. Là, Jean-Charles, il dit, advenant une défaite, qu'est-ce qui se passe? Ce sera la retraite. C'est sans équivoque. Et là, à la fin de l'entrevue, Jean-Charles, il dit, tu m'as pas regardé dans les yeux une fois. Puis, Ulysse, il dit, mais je sais pas, des fois, on me reproche. Regardez. Les yeux, il a l'air pas là pantoute. Il a l'air... Tu sais, quand tu convains ta blonde de venir au souper de Noël chez tes parents, puis ça y tente pas parce qu'elle est allée d'un after hour jusqu'à 2h de l'après-midi, puis le souper de Noël, t'as 3h45 parce que tes parents sont vieux puis ils mangent tôt. Ça avait l'air de ça un peu. Ça y tentait pas pantoute. Il était démotivé, défocusé, OK? Et là, ce que les gens se sont mis à dire, c'est qu'ils ne boxent pas parce qu'ils aiment ça, ça ne tente plus, c'est difficile, ils boxent pour inspirer la jeunesse. Mais en tout cas, sa boxe, elle, n'était pas très inspirante et inspirée. Mais Yves Ulysse, pour je vais partir du début. On va faire un segment, là, un beau 20 minutes sur Ivulis. On a un moyen. Non, non, peut-être pas 20. Hein. Ivulis, il a 34 ans. Okay? Lui, chez les amateurs, il va avoir une superbe carrière. Il va battre les Kane Heron pour la sélection olympique. Il va battre Jesse Wilcox en finale olympique. Il va avoir une défaite très serrée aux Canadiens contre aux Panaméricains contre Pritchard Colomb. Celui qui a reçu un coup derrière la tête aujourd'hui, il est paralysé. Il va rebattre Wilcox. Il va battre Frédéric Lawson de la grosse équipe nigérienne en Inde au jeu du Commonwealth. Il va battre Josh Wagner qu'on a connu. C'est vraiment chez les amateurs, il va faire beaucoup de choses. Il va même avoir des grosses victoires à l'international, à Bakou, au championnat du monde amateur, où il va rincer Lush Boshmev, Marjak Novich. Il va rebattre encore aux Canadiens Josh Wagner en finale. C'est quelqu'un qui bat à peu près à Yazusen. Arthur Bjarslanov, il va aussi le battre en 2013, l'empêcher d'être champion canadien. Il va même battre un Cubain maintenant quelque part dans sa carrière amateur. C'est quelqu'un qui a une immense carrière amateur avec des vraies victoires à l'étranger. Il va passer chez les pros et je vous le dis, là, c'est le plus beau rayon de soleil que tu peux avoir. Les dentistes se battent pour avoir Ivulis tellement qu'il y a un beau sourire éclatant. On l'appelait Capitaine Sourire. On disait que c'était le même charisme qu'un Lucian Bouté. C'était la grosse affaire. Okay? Il va passer pro avec Interbox. Et là, il va accumuler les victoires, surtout en sous-carte de Lucian Bouté. Et on crée notre Ivulis. Il va même avoir une belle victoire contre Zachary Oshoa. Oshoa est un prospect de Delahoya et on veut l'amener Ulysse à perdre contre Oshoa pour propulser Oshoa et Ulysse va le traverser, va même le knocker. Okay. Il va même battre Sismondo qui vient de jouer un tour à Madouma, à dirigeant. Il va traverser Sismondo. Rapidement, il nous montre qu'il est une tête au-dessus des autres boxeurs québécois qui peut jouer à l'international. Et là, il va arriver une défaite contre Steve Claggett un soir d'octobre 2017 au MTELUS. Et il y a des gens qui vont découper des extraits, il y a des gens qui vont déchirer leur chemise. Ulysse semble s'être fait voler par le juge Sylvain Leblanc qui aurait pu lui donner un bien meilleur sort. Fait qu'en plus, on va comme accuser le Québécois d'avoir volé Ulysse. T'sais, il va avoir seulement un Américain, Tony Lundy, qui va donner le combat à Ulysse. Mais Ulysse semble avoir gagné 7-3. C'est vraiment la consternation. Et là, Ulysse, étrangement, va recevoir une offre pour affronter Cletus Seldin. Seldin, on le compare à Rocky. Non, à Mike Tyson, OK? C'est un gars très tough de Brooklyn, New York, qui encore aujourd'hui a une seule défaite contre Ulysse, qui revient dans les classements. Et on est en sous-carte de Billy Joe Saunders contre David Lemieux. Et là, ce Cletus Seldin-là est largement favori pour battre Yves Ulysse par KO. Et Yves Ulysse, en pleine télévision internationale, va débattre complètement Cletus Seldin. Il va l'envoyer au tapis au premier, au deuxième, au troisième. Mais comme il respecte la force de frappe de Seldin et que Seldin n'a plus de jambes, plus rien, il va éviter de rentrer à l'intérieur. Il va le poivrer de l'extérieur. Il va aller chercher sa victoire par décision. Et là, il va dire, écoutez, je comprends que j'aurais pu le finir en pleine télé, mais je reviens d'une défaite. J'ai joué les pourcentages et je suis allé de la façon la plus safe possible pour remporter la victoire. Là, il va battre des bons boxeurs. Ernesto Espana, qui est un gars avec des grands bras. Il va battre Maximilio Becerra. Steve Claguette. Et là, il est retourné dans le classement, il est retourné dans toutes les histoires, on a oublié. Il a même réglé sa défaite contre Claguette. Et là, on va lui trouver un boxeur colombien. Gaucher. Rappelez-vous de ça, ça va avoir une incidence plus tard dans mon histoire. Ismael Barroso. Barroso est rendu à 37 ou 38 ans. Puis c'est un gars qui... Ulysse est largement favori, mais Barroso, on lui reconnaît une solide force de frappe. Okay? À l'époque, il a gagné quasiment tous ses combats par KO. Et tout ce qui est arrivé, lui, dans sa vie, c'est qu'il s'est fait voler par Isa Chaniev à Riga. Je pense que c'était en Lettonie, mais là, je suis plus sûr. Mais il méritait un bien meilleur sort. Okay? Il va même envoyer son adversaire au tapis. Après ça, il va perdre contre Batyrzhan Akhmedov. C'est vraiment son seul problème. Mais il va aussi envoyer Akhmedov au tapis avant de se faire arrêter au 9e. Fait que là, il y a deux défaites contre Chaniev et Akhmedov. Sont des bons boxeurs. Mais ils ont envoyé les deux au tapis. Puis il a perdu aussi contre Anthony Crolla. Mais il a ouvert l'œil au complet. Mais il a battu Kevin Mitchell, qu'on a vu battre Ghislain Maduma. Il a battu Fidel Maldonado, qui est un gros prospect à une autre époque. Puis on sait qu'il frappe dur. Il va se lancer tête première sur Ulysse tout le long du combat. Ulysse va lancer les meilleurs coups, mais il n'en fera pas assez, puis il va perdre. Et là, il va arriver quelque chose qu'on reproche encore beaucoup à Camille Estéphane aujourd'hui. Un Camille Estéphane émotif va déclarer « Yves Ulysse a tendance à se regarder boxer, à se trouver beau, à se trouver bon, puis il n'en fait pas assez dans le ring. » On va reprocher à Camille Estéphane de jeter le bébé avec l'eau du bain ou de passer Yves Ulysse en dessous de l'autobus, lui qui vient déjà de subir une défaite. Après ce moment-là, je ne peux pas vous dire exactement quand, ils vont créer le tournoi, là, le Super 4, où il y a 50 000 en jeu, mais finalement, on ne verra jamais la fin. Et il va battre dès la première ronde. Il va traverser Mathieu Germain. Il n'y a pas d'autre mot. Je suis un fan de Germain. Je pense que Mathieu va gagner avant le combat. Mais Ulysse va, désolé Mathieu, va le corriger, va l'amener à l'école, va le massacrer. Choisissez ce que vous voulez. On apprend qu'Ulysse est dans des problèmes psychologiques incroyables, qu'il est en dépression, qu'il est enragé, il est hargneux, il frappe à deux mains sur Germain, c'est pas drôle, OK? Après, il engueule du monde, ça a l'air, là, ça, j'ai entendu ça, il engueule du monde dans la chambre d'hôtel, il était pas là, là. Il avait besoin d'aide psychologique, mais ça fait sa plus grande performance en carrière. On va le ramener contre David Théroux. Il va sacrer une volée à Théroux. Théroux très courageux, mais ce ne sera pas assez. Et là, on se ramasse avec une... C'est toujours triste un peu. On se ramasse avec une longue période d'inactivité où il va revenir contre un gars qui s'appelle Reuken Kona Fagundo Arce. Et là, il va le battre facilement au troisième dans un combat pas très inspiré où il est comme toujours en corps à corps inutilement. Et là, il va dire « Je veux que mon prochain combat soit très important. Je veux que mon prochain combat compte d'un classement. Je veux que mon prochain combat soit en sol américain peut-être. » On entend plein de choses. Puis il finit par aller affronter un gars de 16-1, José Macias Henriquez, au casino de l'Aclémie. Et là, il va faire ce qu'on peut appeler une contre-performance. Il va se battre pendant 10 rondes. Il va se coller pour rien sur Henriquez. Très étrange. Et là, ça nous mène à la défaite contre Golaz Valenzuela et la fin de sa carrière. Je vous ai raconté sa vie au complet. Donc, il va jamais vraiment... Il va avoir été champion WBA Gold, mais il n'a jamais vraiment été dans les classements. Il n'a jamais vraiment affronté de top 15. Il était chez Interbox. La compagnie est vendue à Eye of the Tiger. Le contrat vient avec. Il n'a jamais vraiment été heureux avec chez Interbox. C'est jamais vraiment bien entendu avec Camille et Stéphane. Il va s'entraîner avec Rénal Boisvert pour ensuite aller chez Moffa, pour finir avec le fils Moffa. Le fils Moffa, ben, il fait son possible, mais ça va jamais vraiment, ça semble jamais vraiment, si tu regardes sur le ring, ça fonctionne pas tant que ça, c'est difficile. C'est comme si sur papier, mais j'aime ça faire des comparaisons avec le hockey, c'est comme un Jonathan Drouin. Il a tout sur papier, mais ça n'a jamais paru dans le livre des statistiques. Tu sais, on dit que c'est le plus grand talent qui est sorti du Québec depuis Jean Pascal. On entend souvent des lignes de même. C'est le plus beau boxeur qu'on a vu. C'est celui qui a le plus grand livre d'outils. On entendait ça cette semaine. Coffre d'outils. Je vous dirais que je ne suis pas vraiment d'accord. Il n'y avait pas, à 140 livres, chez les pros, une force de frappe à tout casser. Il y avait certes le jeu de pied, mais il y avait aussi des défauts. Il lançait pas assez de volume. Il allait inutilement corps à corps. Il était facile, des fois, à atteindre. J'ai jamais vu, malheureusement, en Yves Ulysse, les performances au niveau de ce que j'entendais cette semaine de nos amis journalistes québécois qui, à les entendre, il avait été champion du monde 4 fois. Là. On dirait, ça c'est un peu, tu sais, la vieille expression, le roi est mort, vive le roi. Là, cette semaine, c'était le plus gros talent de l'histoire du Québec. Donc, je sais pas. Calmez-vous. C'est un gars qu'on voyait très haut, comme souvent les promoteurs nous vendent, et que finalement n'aura pas eu les accomplissements. Sur un terme plus personnel, on se moquait souvent des Vulis parce que c'est un gros joueur de jeux vidéo. Je pense que ça a été surfait. Moi, Yvulis, là, les premiers 3 ans, c'était quasiment mon meilleur ami. Il était vraiment gentil. Il était souriant. Il nous prenait dans ses bras. Puis à un moment donné, il y a eu, je ne sais pas encore là, c'est-tu l'anxiété, c'est-tu les crises de panique. Après sa défaite contre Steve Claguette, il y a eu un changement d'attitude. Il ne voulait plus parler aux journalistes. Ça, si tu veux te chicaner avec ton promoteur, parle plus aux journalistes. T'sais. On va te chercher des adversaires, on paye. Et tu nous aides pas avec les médias pour vendre des billets, tu sais, ce qui est comme tout connecté ensemble. Parle plus aux journalistes, sans m'embrouille avec son promoteur. Se plaint souvent des choix d'adversaires, se plaint des bourses. Là, il n'existait plus, là, il voulait gentil. Tout était transformé. Il n'est jamais revenu. Une fois, avant d'affronter Barroso, moi, Sylvain Pelletier me dit hey, « On va aller rencontrer quelqu'un, tu vas voir, ça fait juste 4 ans. » Il m'emmène dans un genre de beau bloc appartement près du métro Saint-Michel. Puis là, je dis « Voyons, Sylvain Pelletier, ça va-tu acheter de la drogue quasiment? » J'étais inquiet. Puis on rentre, c'était Yves Ulysse qui attendait pour partir en avion à aller affronter Barroso. Puis il était une bonne attitude, puis il nous parlait. Puis là, il m'avait comme raconté que c'est pas qu'il en veut aux journalistes, c'est que c'est le combat le plus important de sa carrière. Puis lui, il pensait que en s'isolant, puis en focusant, puis surtout que c'était à l'étranger, il n'y avait pas de billets à vendre. Le combat était dans un hangar, je pense, dans le sud de la Californie. Il a dit, c'est pas à moi de vendre des billets. Ça sert à quoi? Quand même bien que j'irais parler à Frédéric Daigle, Mathieu Boulay, puis Francis Paquin toute la semaine. Ils sont vendus, les billets, là-bas. Moi, le plus important, c'est ma victoire. Puis tu sais, il y avait vraiment... Pour lui, c'était comme une façon d'augmenter ses chances de gagner, de focusser sur ce qu'il avait à faire, puis de ne pas s'éparpiller dans les médias. Mais malheureusement, les médias, ça vient avec quand tu es boxeur professionnel. C'est un sport spectacle, puis quand tu veux des bourses, puis tu veux des adversaires, il faut que tu participes à l'effort médiatique. Reste du... Yves, pour conclure, Yves maintenant est impliqué dans le centre lassalien où il vient en aide aux gens de son quartier, il inspire des jeunes, il sort des jeunes de la rue pour les amener au gym, il aide des familles à manger. Moi, je suis pas supposé vous le compter parce que c'est des secrets puis il veut pas trop que ça sorte, mais c'est pas rare là, qu'il y a des hommes d'affaires, mettons, fortunés ou des gens comme exemple. Une fois, mon bon ami... Mike Bilodeau, tu sais, il est allé rencontrer Yves Ulysse, puis il a vu quelqu'un rentrer pour faire un don à Yves. T'sais. Mais Yves, je trouve ça beau ce que tu fais. V'là un don. Puis tu sais, Yves, il y avait comme des familles qui savaient qu'il ne mangeait pas. Il est parti avec le don. Il a fait des épiceries. Puis je pense que Mike était peut-être là. Ils sont allés comme porter des épiceries chez des gens, tu sais, dans le temps des fêtes. Tiens, v'là de quoi nourrir tes enfants, du monde qui n'ont plus rien dans le frigidaire. Parce que ça existe, cette réalité-là aussi au Québec. Puis c'est quelqu'un qui, loin de la boxe, mais parallèlement à la boxe, très impliqué dans son quartier et fait du bien. C'est incroyable ce que Yves Ulysse fait. C'est vraiment une bonne personne. Puis peut-être de plus être en boxe, puis de juste focusser sur la mission qu'il s'est donnée dans sa vie, va le rendre plus heureux, puis va régler certains problèmes d'anxiété, de panique, puis de tout ce qu'il y avait un peu dans sa tête. Mais ça, écoutez, pas tout seul. Moi aussi, j'ai des problèmes d'anxiété puis de panique, puis je suis loadé ces médicaments. Fait que Yves fait du bien à ta communauté, puis tu sais, bravo pour tout quand même. Il y avait une carte de boxe le 2 février passé. Il y a 3 jours, ben, Wilken Germain a débattu son adversaire Zoïd Birkas. Ça va être long avant de... Wilkins Mathieu, plutôt. Wilkins Mathieu, bravo. Va déjà remonter dans le ring, je pense, le 23 mars prochain. Donc, moi, j'ai rien à dire. T'sais. Avant qu'il aille 22-23 ans, je pense qu'il ne faut pas vraiment s'énerver. Il faut juste laisser le garçon... maturer physiquement ou mûrir pour ceux qui ont un Becherel. Alexandre Gaumont, lui, a battu Carlos Gallego Montijo. Gaumont, il est jeune, fait qu'il est vieux, il a 27 ans. Fait qu'attendez-vous, tu sais, autant que Mathieu, peut-être ça va prendre 25 combats avant qu'on le teste vraiment. Gaumont, attendez-vous que ce soit 15 sur le compteur. Il va être testé dans les 18 à 24 prochains mois. Christopher Guerrero a battu Edwin Villaril Flores. Guerrero, beau petit boxeur compact, né au Mexique, élevé à Montréal, gentil, beau sourire. Là, passe le KO à Flores. J'haïs pas ça, on verra à quoi ça va, où ça va le mener. Évry Martin Duval, qui est un garçon charmant, qui a l'air arrogant que le tabarouette dans le ring. Étrangement, là, il a l'air arrogant, mais il a une face à fesser dedans dans le ring. Tu dis, mais je veux rien savoir de ce gars-là. À l'extérieur du ring, aller y parler, c'est peut-être le gars le plus gentil. Gentil, poli, posé. Il remercie, tu sais, voir les journalistes un par un. Il dit, merci d'être là, merci pour la couverture. Si vous avez besoin de me parler, je suis là. Il est très avenant, genre, étrangement. Tabarouette, t'as le goût de se présenter ta sœur quasiment une fois qu'il est en dehors des câbles. Bassignan va vaincre Alan Tice Fox dans un combat serré. Fox avait des bras de pieuvre. Le plan, c'était d'attendre que Fox se fatigue, puis il s'est fatigué finalement. Bassignan a très bien paru. Il a l'air d'un animal dans les 4 derniers rounds. Je vais vous la faire, ma prédiction. Bassignan est 3e à WBA. David Morel va avoir besoin d'adversaire. David Morel, Éric Bassignan, avant la fin de 2023. Puis non, il n'y en aura pas de facile parce que je pense que Morel a 250 combats amateurs. Champion du monde à son 5e combat. Il frappe comme un train. Il bouge. La science cubaine. Il n'y en aura pas de facile. Mais là, à un moment donné, Bassignan est rendu à 3 entraîneurs. Il est rendu à 2 promotions de boxe. Tout le monde investit dessus. Rixa, il a payé une tonne de ceintures nord-américaines. Camille aussi, il est classé top 5 dans 3 divisions. Maintenant, si le téléphone sonne, il n'a pas le choix de dire oui, puis ben, d'y aller finalement. C'est de même. Maintenant, rendu à 27 ans, t'as ton prime. Fait qu'on y va, il arrivera. Ce qui arrivera. On a appris un peu le reste de la carte là, de Jean-Pascal. Pascal va affronter Eifert. Ça, c'est le jeudi le 16 mars pour ceux qui aiment les combats le jeudi. Germain contre Wilcox. Camara contre Prisca Vico. Mighty Joseph Ward, qui était un gros prospect, qui a perdu déjà un combat contre Mario Andrade, Amanda Gill, qui appartient aussi à l'UDBLA, Pomerlo, un adversaire, Caroline Vair, qui est 77e au monde, va affronter Emma Gongora, la 20e. On lance Caroline Vair sur la voie rapide. Le prospect de DBLA, Yoel Angeloni, mais Ayoub Mahani, c'est de lui que je veux vous parler. C'est un gars du Maroc qui était sur l'équipe nationale, qui habite à Montréal maintenant, qui boxe avec Jean-Pascal. Et tenez-vous bien, ce serait le nouveau projet de retraite de Jean-Pascal. Signé avec Jean-Pascal Promotion. Et on va essayer pour du côté de Jean-Pascal de lancer sur sa sous-carte Ayoub Mahani. Donc, ben on sera là le 16 mars prochain. Ben, je ne sais pas si je vais y aller dans le fond. Paraît pas, mais je suis occupé. Là. Des affaires à faire. Les codes d'écoute sont en explosion sur ton podcast préféré. Laurence écoute parler. À l'international, hier, Amanda Serrano est allée à la guerre contre Erika Cruz. Et victoire! Jake Paul était comme impliqué dans le gala. Puis Paul a placé sa boxeuse qui a gagné 8-2, 7-3, si ma mémoire est bonne. Et là, l'idée, c'est d'organiser la revanche entre Serrano et Cathy Taylor. Shadasha Green, elle m'a impressionné, elle. Elle recule drette, elle a le menton haut, elle se fait frapper, mais elle te laisse rentrer pour te piéger. Elle swing en joie le vert en contre-attaque, signée par Jacques Paul. Shadasha Green, allez voir ça. Une claque monstrueuse. Elle a passé le KO à Hélène Seredos, qui n'avait jamais vu de tapis dans sa vie. J'étais impressionné. On a appris que les débuts de Shakur Stevenson à 140 livres ou à 135 livres, je ne sais plus. Là. C'est sûr que si je cliquais sur mes nouvelles, j'allais le voir. Va affronter, c'est à, je sais plus, 135, je pense. Ah non, c'est ses débuts. Wow, je sais plus. Là. Bon, j'abandonne. Je suis trop mêlé dans mes dossiers. Il y a quelqu'un qui m'a dit cette semaine, Siama Kramati m'a dit, tant qu'à faire podcast, pour arriver à préparer le tweet. Puis j'ai dit, t'es mon meilleur ami, t'es supposé m'encourager. Il dit non, je suis ton meilleur ami. D'un, c'est pas vrai, je suis ton collègue de travail. Puis il m'a dit, deuxième affaire, encourager, c'est pour les faibles. Moi, je te dis les vraies affaires. Il m'a dit, prépare-toi comme il faut. Fait que je m'en veux vous rendre compte, je suis pas plus préparé. Mais Shakur Stevenson va affronter Shushiro Yoshino, son aspirant numéro 5. Ça doit être à 135 livres. Là, parce que Shakur est champion 135 livres, mais prépare son arrivée à 140. Je pense que c'est ça que j'ai compris. Edgar Berlanga rêve de Canelo Alvarez, lui qui a perdu son emploi avec Top Rank récemment. Ah ouais, j'avais pris bien des dossiers. Je pense que je vais faire un podcast de 2 heures aujourd'hui. Emmanuel Navarrete s'est fait lancer un défi par Oscar Valdez. Donc, Valdez est le nouveau champion WBO, a un défi par Emmanuel Navarrete. Et là, tenez-vous bien, là, il y a des débuts de discussion pour organiser un combat entre Manny Pacquiao, 44 ans, et Conor Bean. J'avoue que ben, j'ai sursauté celle-là quand je l'ai entendue. Il me semble c'est bizarre, ça. 44 ans, c'est quand tu vas prendre ta retraite, là? En tout cas, John Boza a essayé, mais a perdu 188 contre Richardson Hitchin. C'est ça. Eddie Hearn pense signer Berlanga pour l'avoir contre Canelo. Sinon, Laurence Okolie, lui, a quitté Sean McWiggin pour aller s'entraîner avec Sugar Hill. Anthony Joshua va affronter Jermyn Franklin le 1er avril prochain. Dillian White est fâché parce qu'il n'a pas été choisi. Beaucoup de gens en Angleterre, ça tourne, conseillent à Chris Eubank Jr. de ne plus s'entraîner avec Roy Jones et même de l'abandonner, que c'est la raison pourquoi il a été knocké. Comme Maurice Richard à l'époque, Roy Jones a été un grand boxeur, mais serait tout croche comme entraîneur. David Benavidez a insulté Caleb Plante, puis il a dit « il a failli brailler ». C'est ça, tu sais, les jeunes. Les jeunes peuvent bien dire ce qu'ils veulent. Bernard Hopkins, lui, est d'avis que Caleb Plante va surprendre David Benavidez. Et qu'est-ce que j'avais d'autre dans ma chronique internationale? Jean-Paul va affronter Tommy Fury. Moi, ça me dérange pas. Faites donc ce que vous voulez. C'est au peuple de choisir qu'est-ce qu'il veut écouter. Si le peuple a envie d'écouter Jean-Paul, ça y appartient. Ça, le peuple, il écoute LCN. Il peut bien écouter Jean-Paul. Joe Joyce va affronter Zay Lezang le 15 avril prochain. Zay Lezang est allé à la guerre contre Philippe Ergovic. Joe Joyce commence à être vieux, Joe Joyce. C'est long avant qu'on le voit dans des méga combats, mais revanche des Jeux olympiques. Bon, un super combat pour le public, mais je trouve que Joe Joyce devrait regarder peut-être ailleurs. Ça, c'est mon point. Oscar De La Hoya est fâché. Il dit que Germal Charlot est protégé par la WBC. Il n'a pas boxé depuis 2 ans. Bloque la ceinture au complet. Joshua Boiti. C'est étrange ça, hein? S'est retiré de l'appel d'offres contre Jean-Pascal. Là, se retire de son contrat avec Matchroom. Eddie Hearn aimerait le signer, peut-être l'opposer à Bivol ou Yardé. Boiti, tu t'en vas où avec ça, là? Tu refuses Pascal, tu changes de coach. Bizarre, ça. Je comprends plus rien. Il y a des gens qui ont commencé à supposer que Arthur Beterbiev allait faire un pied de nez à Bivol. Canelo allait faire un pied de nez à Bivol, affronter Beterbiev pour ramasser les 3 ceintures, pour ensuite unifier contre Bivol. Mais là, ça fait beaucoup de si, et avec des si, on peut mettre Paris en bouteille. Eddie Hearn a dit que s'il réussissait à convaincre Beterbiev et Bivol de s'affronter, c'était plus important sur la scène mondiale que Spence versus Crawford. Il a dit que Spence Crawford était comme dans le micro, je ne me rappelle pas du mot, je veux dire. Était comme dans le micro-climat des États-Unis, tandis que Beterbiev Bivol, c'est le monde entier qui s'y intéresse. Écoutez, j'ai pas plus de commentaires qu'il faut, là. À propos de ça, je pense encore que Spence Crawford, c'est le plus gros combat qu'on peut organiser. Sinon, j'avais quoi d'autre à vous raconter? Pas grand-chose. Fury Usyk le 29 avril. Ils vont sortir un film sur la vie de George Foreman. Comptez sur moi pour être le premier assis en avant au cinéma. Le jeu Undisputed est sorti sur Steam, mais ça semble être un peu décevant pour le moment parce que il n'y a pas d'option. Tu peux juste faire des combats un contre un. Puis vu que le jeu vient de sortir, il y en a qui disent que les punches passent dans le vide, t'as pas l'impression de frapper l'adversaire. Il y a toutes sortes de commentaires, mais c'est très mitigé, ça ne semble pas faire l'unanimité. Mais j'ai compris que c'était à ça que ça servait Steam, c'était de sortir un jeu et d'ensuite ajouter et modifier selon les commentaires des gens. Donc voilà qui fait le tour de ton podcast préféré, Laurence Écoute Parler. Bonne semaine. Et écoutez la compétition, ça ne me dérange pas, après avoir écouté mon podcast. Et souhaitez-moi tous bonne fête vendredi.
Beterbiev, Arthur Beterbiev,
oui.
est probablement le meilleur boxeur au monde. Au niveau technique, écoute, c'est un bijou. C'est un charme de voir cet athlète-là qui vit à Montréal. Il est tchétchène d'origine, musulman, pratiquant, et un boxeur unique, un vrai spartiate.